Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Et voilà, pour préparer Noël que tout le monde attend avec impatience, j'ai envie de vous proposer une lecture qui vous passionnera, j'en suis sûre. C'est bien le moment d'offrir des livres et de s'en offrir à soi-même. Et pour l'occasion, eh bien, je reçois aujourd'hui Thierry Bontou. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Alors Thierry, vous ne vous en souvenez sans doute pas, chers auditeurs, car ça remonte à quelques années, je ne sais plus même quelle année, mais nous l'avions déjà rencontré sur les ondes, Thierry. Mais à l'époque, il vivait assez loin de nous puisqu'il vivait à Londres.
Oui, je vivais à 20 km au nord de Londres. Oui.
Alors c'était
plutôt froid.
Oui, c'était les hasards de votre profession puisque vous travaillez là-bas. Et lorsque je vous ai retrouvé par hasard en voyant que vous aviez à nouveau publié un livre, la première question que je vous ai posée, c'est si vous étiez encore à Londres. Et non, justement, là, vous êtes maintenant tout près de nous.
Oui, j'ai déménagé en 2021. J'ai déménagé à Fréjus, de façon permanente. On a dit au revoir au climat nuageux anglais et on s'est installé sous le soleil de la Côte d'Azur. Voilà.
Oui, je pense que le choix se comprend et aisément. Alors donc, on va d'abord retracer un petit peu votre parcours, puisque vous avez laissé, je crois, cette profession de côté, peut-être pas pour toujours, je ne sais pas, mais vous étiez plutôt un scientifique.
J'ai une formation scientifique, j'ai un doctorat en ingénierie laser, mais ça c'est au niveau du diplôme, je n'ai jamais utilisé la physique.
Mais alors ce diplôme, vous l'aviez obtenu au Japon, je crois.
Je l'avais obtenu au Japon, effectivement, en 99 ou 98, dans ces eaux-là. J'y suis rentré et puis dès mon retour, si vous voulez, j'ai fait une profession d'ingénieur commercial dans le militaire. Et puis après, je me suis destiné à l'aéronautique. Et je crois qu'au moment où vous m'aviez interviewé, je montais ma première boîte de consultants pour redresser les systèmes de production. Voilà. Il y en a eu plusieurs après. Il y a eu plusieurs entreprises après que j'ai créées. Et puis voilà, j'ai tout plaqué et pris une nouvelle voie et une nouvelle entreprise, c'est vrai. La maison d'édition des Libertés.
Voilà, parce que quand je vous ai connu sur les ondes, encore une fois, l'écriture était votre hobby, votre passion, et maintenant c'est devenu votre métier.
C'est devenu ma profession, oui. À cette époque-là, si vous voulez, je passais, pendant plusieurs années, près d'une dizaine d'années, j'ai passé ma vie entre deux avions, entre deux aéroports et un peu partout dans le monde. C'était un métier très stressant, et l'écriture, c'était pour moi la soupape. Donc j'écrivais, je crois que quand vous m'avez interviewé, je venais de sortir Massilia.
Oui, c'est ça.
J'en ai sorti d'autres après, ça c'était le deuxième de la série.
Des enquêtes de Lucius Apex.
Lucius Apex, merci, vous le savez mieux que moi, j'ai pas envie de chercher. Mais après, dans la même série, il y a eu Les Fumées Inachevées, je crois que vous l'avez lu.
Oui, c'est celui, voilà. C'est le dernier que j'avais lu avant que je n'entame le forum Yuli.
Voilà, et après, il y a eu Le Gouffre du Diable aussi, je me demande s'il n'y a pas ça au milieu. Et puis finalement, là, j'ai le dernier ouvrage que j'ai fait, je l'ai écrit en partenariat avec la direction de l'archéologie de la ville de Fréjus. Et ça s'appelle, comme vous dites, l'Assassin Forum Iulii. C'est une plongée dans le monde antique pour faire de l'archéologie vivante. C'est-à-dire que c'est un roman policier. C'est également une plongée dans la vie quotidienne des Romains telle que les archéologues l'envisagent ou la voient.
Alors bon, on peut dire que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de la Tamise et vous êtes maintenant sous d'autres rivages. Mais en fait, il y a quand même des points communs, évidemment. Ben, c'est l'auteur qui est commun, mais aussi la passion pour le roman policier. C'est la même époque aussi qu'on retrouve, à savoir l'époque des Flaviens, qui vous est chère.
Oui, alors, j'allais dire oui non, mon capitaine. Quand vous m'aviez parlé pour Massilia, en fait, c'est un roman qui a une suite. Alors Massilia lui-même, c'est un roman, une aventure en soi qui finit.
Oui.
Mais le premier roman de la série qui s'appelle Le complot de Marcus Antonius Remus est clairement envisage une suite. Donc je me devais d'écrire la suite, d'autant plus que on m'avait donné une idée de roman excellente, donc j'avais aucune raison de ne pas le faire. Donc ce qui a donné Les funérailles et les cheveux, qui sont à la fin, qui sont toujours dans l'époque flavienne. Les trois forment un tout. Je pourrais effectivement aller un peu plus loin, je pourrais les continuer, mais j'ai tellement d'autres choses à dire que je ne suis pas sûr que je vais continuer sur cette série-là, mais pourquoi pas.
Ce qu'on voudrait absolument, c'est que ça continue l'Antiquité. Nous vous laissons le droit de changer d'empereur, mais bon...
Voilà, on a le droit de changer d'empereur. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec l'Assassin for Romuli. Alors, lui, ça se passe effectivement sous les Flaviens, mais c'est le fils.
Voilà, c'est Titus.
Au lieu d'être Vespasien. L'idée, c'est que vraiment, l'époque flavienne est à ça d'intéressante quand vous êtes à Rome, que le père, Vespasien, a fait en sorte de mettre une chape de plomb autour de tout ce qui se passait autour de lui. De façon à ce que le peuple le considère comme quelqu'un d'accepté. On ne faut pas oublier qu'on sort de l'année des trois Césars.
Oui.
Il a rétabli la Pax Romana. Alors, on sait très très bien ce qu'il a fait politiquement, on sait très très bien ce qu'il a fait archéologiquement, mais tout ce qui tourne autour de sa personne, les complots qu'il devait y avoir, on n'en connaît que deux, en fait. Donc, pour un auteur, je trouve que c'est une époque fantastique, surtout quand on veut écrire des romans policiers. Lucius Apex, sachant que Lucius Apex, c'est un des gardes du corps, et que Vespasien est l'inventeur de la police secrète,
oui.
Du moins de la police secrète à la façon américaine. Vous savez, la police secrète, elle est chargée de la sécurité du président. Donc ça, c'est l'inventeur, c'est Vespasien, qui a décrit un vrai. Et en fait, elle avait ce rôle-là. Donc c'est comme on ne sait rien de ce qui s'est passé, pour un auteur de romans policiers, c'est excellent, parce qu'on peut inventer ce qu'on veut. Sans déroger à l'histoire.
Voilà. Donc, c'est le scénario parfait qui croise l'histoire avec un grand H et l'histoire qu'on raconte.
Exactement. Et alors, la raison pour avoir placé For Romuli en 80 après Jésus-Christ, donc sous Titus,
oui.
Elle est un peu différente. D'abord, il n'y a pas du tout... on change complètement de contexte. Hein, effectivement, c'est un roman policier. Ce n'est pas du tout la même atmosphère.
C'est vrai.
L'atmosphère la série Lucius Apex, c'est un garde du corps qui mène des enquêtes, donc c'est, on va dire,
c'était
un peu violent, un peu dur. Vous imaginez, il n'y avait pas les droits de l'homme à l'époque, c'est un militaire qui mène une enquête, quand il interroge quelqu'un, il va pouvoir demander poliment ce qu'il en pense.
Mais tandis
Par
que
contre,
là, on a aussi, on va reparler bien sûr dans la deuxième partie de l'émission des personnages,
oui.
on a vraiment un quotidien plus apaisé. Et pourtant, votre personnage a connu pas mal de tribulations.
Exactement. Mais c'est ça l'intérêt, c'est qu'en se plaçant en 80 après Jésus-Christ, on est à la grande époque de l'Empire romain, à l'apogée, pratiquement, et à l'apogée de Fréjus. Donc c'est pour ça qu'il fallait parler dans ces eaux-là, parce que c'est à l'apogée de la ville de Fréjus. Et en même temps, on parle d'une population qui n'a rien à voir avec la population romaine.
Oui.
Donc ça fait des personnages qui sont très différents, on va en parler plus tard, mais
oui.
le héros est un médecin.
Voilà, on va y revenir dans un tout petit instant.
Tout à l'heure, on en reparlera. Oui,
voilà.
Tout à fait.
Je voulais m'attarder à un deuxième point commun, mais je trouve que dans vos romans précédents, il y avait aussi un goût pour le Sud-Est déjà annoncé. Il y avait Marseille, on était déjà à parler de cette région-là. Alors justement,
oui.
Mon autre question croise cette fois-ci votre histoire à vous. Pourquoi avoir abouti à Fréjus? Qu'est-ce qui vous a attiré à Fréjus?
En fait, je ne suis pas natif de Fréjus, mais c'est quasiment ma ville natale. Mais mon grand-père, si vous voulez, était avignonnais, mais depuis que je suis gamin, il vivait à Fréjus. Il vivait à Saint-Aiguille, un petit village à côté. Donc moi, j'ai passé mon enfance jusqu'à mes 20 ans, jusqu'à ce que je parte pour le Japon puis l'Angleterre, tous les étés, 2-3 mois par an, dans cette ville. Il y a un microclimat qui est quand même assez exceptionnel. Il peut pleuvoir à Nice, il peut pleuvoir à Toulon, il fera toujours beau à Fréjus. Il peut geler un peu à côté et il ne fera jamais sur la côte là où on est. Quand il fallait revenir, quand on a décidé de revenir en France, Le choix s'est porté, un, dans la région de Fréjus, il faut en trouver, deux, là où, plus dans les terres, là où, pareil, j'ai de la famille, Avignon, Orange, dans ces zones-là. Mais bon, on a trouvé une maison à Fréjus et on s'est installé à Fréjus.
Alors, en plus, c'est une ville portuaire, donc c'est la ville de tous les voyages, de tous les départs, de toutes les arrivées pour votre personnage. On va y venir tout de suite.
Exactement.
Alors, j'aimerais qu'on dise un petit mot sur donc, votre tournant professionnel et votre histoire extraordinaire d'éditeur.
Extraordinaire, j'en sais rien. Oui. Alors, ma vie professionnelle, en fait, comme je vous dis, les 10 dernières années, si vous voulez, j'ai des consultants internationaux, soit par des sociétés que j'avais montées moi-même, soit pour des groupes de consulting qui m'envoyaient, je voyageais un peu partout dans le monde, pour redresser les systèmes de production de lignes de compagnies aériennes, de fabricants d'électronique, etc. Donc, mon rôle, c'était vraiment de je passais d'un point à l'autre. Je voyais très peu de ma famille, c'était très stressant parce que il fallait les résultats hier, constamment. Et bah, on peut supporter un certain niveau de stress. Et moi, après avoir fait 3 burn-out, je crois qu'en famille, on a décrété qu'il fallait que j'arrête, quoi. Il fallait que je fasse autre chose.
Et alors, comment vous est venue l'idée de créer votre maison d'édition?
En fait, je ne voulais pas la créer, moi. Je m'étais juré de ne plus jamais créer d'entreprise.
D'accord.
Voilà. Mais j'ai une fille qui, elle me ressemble beaucoup dans ce sens-là. Elle a fait des études de recherche en biologie.
Alors, je sais que vous dédiez le livre à une future, un futur médico, c'est votre fille,
c'est
oui.
Pas, c'est pas celle-là.
C'est pas celle-là, d'accord.
C'est pas celle-là, ça c'est la cadette, qui fait ses études de médecine en Grèce actuellement. Et non, mais justement Juliette, qui est la cofondatrice de la maison d'édition avec moi, me suivait depuis un certain temps. Elle faisait des études de sciences, mais en se demandant pourquoi elle les avait faites, en fait. Et elle était passionnée par le livre. Elle m'accompagnait sur les salons quand j'étais auteur indépendant, que je revendiquais, hein, d'ailleurs, puisque la marque Édition des Libertés, qu'on a déposée, vient de là.
Oui.
C'est qu'au départ, j'étais un auteur indépendant et je voulais être tel que tel. Et elle voulait être mon agent. Elle jouait les agents commerciaux, les agents de presse pour moi. Voilà. Elle est très bonne en marketing. Et puis un jour, en août dernier d'ailleurs, pas de cette. On en combien là?
Non. Là, c'était en 2022, dernière, je crois. Voilà.
Voilà, hein. Oui. Août de l'année dernière, on parle et on réfléchissait sur les contrats que les maisons d'édition envoient aux auteurs. Parce que quand j'étais dans des salons, je voyais plein d'auteurs qui venaient avec leur contrat, mais je leur disais, mais pourquoi est-ce que vous avez signé ça? Qu'est-ce que ça vous rapporte? Faites-le tout seul et vous gagnerez à y avoir plus d'argent. Vous n'êtes pas suivi, vous donnez vos livres à des maisons d'édition, mais vous n'avez rien en échange. Et vous êtes payé maximum 5% quand vous êtes payé. Parce qu'en fait, ce qui est peu savoir, c'est que la plupart des auteurs ne sont jamais payés.
Oui.
D'accord? Sous prétexte que la maison d'édition va mal, donc on ne les paye pas. Et j'en ai, mais donc on parlait, parce qu'elle et moi, ben, on travaillait là-dessus. Moi, après avoir créé plein d'entreprises, j'ai quand même un bon baquet de marketing par derrière, de savoir vendre des choses, vendre des produits, vendre des idées. Et je passais souvent, quand j'allais dans des salons, je passais mon temps à voir les auteurs autour de moi. Et je leur disais, non, ben d'abord, vous, voilà comment il faut vous vendre, arrêtez de vous mettre dans cette position. Voilà, donc. Ne montrez pas votre feuille A3 remplie avec que du texte, personne ne veut le lire. C'est pas ça que les gens veulent, ils veulent vous entendre parler. Donc plein de choses. Donc, et puis on discutait de ça avec Juliette, et puis on s'est dit, bah, écoute, pourquoi est-ce qu'on ne montrait pas, nous, une maison d'édition éthique? Une maison d'édition à la limite de la coopérative, hein, qui permette aux auteurs de bien vivre. Alors, et je vais vous donner un exemple. Nous, on a un seul contrat. Hein. Il est pris sur le contrat du syndicat national des auteurs.
Oui.
Donc on ne peut pas faire plus. Et on est allé plus haut qu'eux, c'est-à-dire qu'au lieu d'offrir un généreux 5 à 8% pour les auteurs, nous, on est systématiquement, pour tout le monde, 15%.
Oulala, je pense qu'après l'émission, vous allez avoir plein
de... Alors, on a beaucoup de manuscrits, on en prend très peu, parce que
ben oui.
C'est aussi un autre point qu'on a. Alors, les auteurs sont associés à la gestion de l'entreprise, hein. Ils n'ont rien à payer. On leur dit, ils n'ont qu'un seul devoir, c'est être payés par nous. D'accord? Et on paye rubis sur l'ongle. Il n'y a pas de trait. Mais on les associe également à la maison d'édition parce que c'est leur maison d'édition. D'accord. C'est donc tous les ans, on a deux fois par an, je crois. J'en suis sûr. On a une réunion de tous les auteurs, une assemblée générale des auteurs, où on remet sur la table tout ce qu'on fait, on leur dit exactement le chiffre d'affaires où on en est, comment ça va être, et on discute ensemble. Et ils nous ont fait changer des points des contrats, par exemple. Donc on aimerait mieux avoir ça. Et si on peut le faire, ben nous on le fait. Voilà. Parce que l'idée, c'est que ça soit vraiment la maison d'édition, elle est faite pour les auteurs. Ça doit être un hub où eux se sentent bien. Ouais. Voilà.
Écoutez, c'est vraiment une aventure formidable des deux côtés. On va marquer pause musicale et puis ensuite nous allons quand même ne pas oublier le roman parce que il faudrait que à l'issue de l'émission tout le monde se précipite. Alors ma dernière question avant la pause musicale, c'est votre livre édité donc aux éditions des Libertés. Est-ce qu'on le trouve en librairie? Est-ce qu'il faut l'acheter sur un site? Oui, on peut le trouver en librairie.
Alors la maison d'édition est une vraie maison d'édition. Il y a un compte d'éditeur, pas un compte d'auteur, mais un compte d'éditeur, je le dis bien, d'accord. Et on a des librairies qui nous stockent. On n'est pas au point où toutes les librairies nous stockent, hein. Mais sur commande, il n'y a aucun problème. Toutes les librairies, on livre régulièrement, enfin pas plus que régulièrement, parce que tous les jours, c'est 5 à 6 librairies qu'on livre. Et puis, on peut nous trouver sur notre site. Alors moi, c'est une méthode que je préfère. Si les gens peuvent acheter sur notre site, c'est encore mieux. Et puis, évidemment, vous avez Kobo, Kindle, Apple,
d'accord.
Amazon,
donc,
et tous ces trucs-là.
Les auditeurs ont bien entendu, ça s'appelle l'édition des Libertés. Donc, on le trouve sans problème, je l'ai testé moi-même. On va marquer une petite pause musicale. Pour une fois, ce n'est pas de la musique de restitution de l'Antiquité, mais c'est un petit clin d'œil à notre personnage dont on va parler tout de suite. C'est la musique du film The Medicus, film d'aventure allemand de 2013. Et nous écoutons un tout petit moment de cette musique avant de retrouver Thierry. À tout de suite.
À tout de suite.
Alors, c'est Antiquissimo, c'est Radio Alliance Plus et c'est Thierry Bontou qui est notre écrivain du jour. Ce n'est pas l'assassin de Forum Yului, son livre, mais l'émission, je l'ai intitulée L'écrivain de Forum Yului. Petit clin d'œil à ce roman. Donc, on l'a dit, un roman policier. Donc, on a parlé de l'époque, on a parlé du lieu. On a dit aussi que le partenariat très important se faisait avec une société d'archéologie.
Non, avec la direction de l'archéologie
oui.
de Fréjus. C'est une des plus grosses directions municipales d'archéologie en France. Il y a plus de 30 archéologues.
Et d'ailleurs, à la fin du livre, il y a tout un petit dossier qui explicite effectivement les fondements très érudits du livre.
Oui, voilà, en fait, c'est la postface est faite par le directeur de l'archéologie, Pierre Escoffons, et le livre, comme le suivant que je suis en train d'écrire, qui se passera au Moyen-Âge, le but de ce partenariat, c'est moi et la maison d'édition de bénéficier d'une source intarissable scientifique au niveau historique, et pour la direction de valoriser le patrimoine et les recherches qu'ils ont faites. Donc la postface de Pierre Escoffons, justement, reprend ses recherches pour les détailler. Et nous, et moi, puisque j'ai écrit ce roman, si c'est une intrigue policière, qui est, enfin, vraiment une intrigue policière, rien de ce qui est marqué contredit les connaissances scientifiques de Pierre Escoffon ou de la direction archéologique. Donc c'est vraiment un partenariat, c'est de la vulgarisation scientifique sur un certain plan. Et l'intérêt que je trouve à ce livre-là, c'est de ça peut être lu à plusieurs niveaux. Vous pouvez le lire comme une enquête policière, mais tout ce que vous allez lire dans le livre est scientifiquement vrai.
Alors justement, ce que je trouve prodigieux, parce qu'il y a parfois des auteurs qui sont très très érudits et qui nous noient un petit peu dans les détails, de sorte qu'on a plus l'impression d'avoir affaire à un document qu'à une histoire, vous réussissez exactement le pari de maintenir le suspense tout le temps, de créer vraiment une émotion littéraire, ce n'est pas simplement du documentaire. Alors justement, comment avez-vous réussi à ne pas être ligoté par l'érudition?
Par l'érudition, oui. Mais en fait, c'est parce que ça s'écrit à deux niveaux.
Voilà.
Moi, j'écris d'abord un synopsis, une histoire policière. Et après, je la soumets aux archéologues qui, eux, me disent, il faudrait parler de ci, ainsi de suite. C'est pas eux qui écrivent, c'est moi.
Voilà.
Moi, je n'ai pas leur connaissance. Je retranscris quand ils disent qu'il faut parler des poteries en terre noire avec du mica. J'en ai jamais vu. C'est eux qui m'en parlent. Donc moi, je les remets. Et eux, ils vont corriger par derrière. Donc c'est très laborieux, je vous dis.
Autant
pour eux que pour moi, d'ailleurs.
Mais justement, le prodige, c'est que cet aspect laborieux, le lecteur n'en a aucunement conscience, puisque l'histoire, elle est vraiment prenante. Les personnages sont formidables. Donc vous avez réussi, et je comprends mieux. Donc vous êtes d'abord parti de votre synopsis et de votre histoire policière, et là-dessus, vous avez façonné pour que l'archéologie et la science n'aient rien à redire.
Voilà, exactement. Voilà. Et puis en demandant aux archéologues le maximum de détails de ce dont eux voulaient parler. Pierre voulait absolument parler des poteries. Donc c'est pour ça que vous avez énormément de poteries dans ce roman. Parce que c'est le sujet cœur de la recherche qu'ils ont fait actuellement. Voilà. Donc c'est fait aussi pour valoriser l'un et l'autre. Et c'est ça que je trouvais important, parce que moi j'aimerais bien que les gens, lisant ce livre, d'abord se divertissent, parce que c'est quand même un roman à la base, mais aussi apprennent sur Rome, par exemple, le fait qu'il y avait des femmes médecins.
Voilà.
On ne le sait pas beaucoup, mais ça, c'est un vrai fait. Il y avait des femmes médecins. Mais aussi qu'ils se disent, tiens, il y a des choses à voir. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe. Là, je suis en train d'écrire un roman au Moyen-Âge. On va parler de caves où il y avait des tavernes. Il y en a deux que j'ai visitées qui ont réellement existé et elles y sont toujours. Parce que les gens se disaient, tiens, j'aimerais bien aller les voir. Ça serait génial.
Ben oui, je pense que c'est exactement l'effet que vous recherchez et celui que nous rencontrons à la fin de votre livre. On a envie d'aller à Fréjus, on a envie d'en savoir plus. Et alors, comme je ne crois pas vraiment au hasard, moi justement, au moment où j'ai lu votre roman, j'étais moi-même en train d'enquêter sur les médecins et sur les femmes médecins, parce qu'à Nîmes, par exemple, on a trouvé des épitaphes qui nous prouvent par A plus B qu'ont été enterrées dans la Nema Ossus gallo-romaine des femmes gynécologues, des femmes médecins. Oui. Et donc, je m'étais amusée à créer des escape games autour de ça. Donc, je me suis dit, c'est incroyable, parce que là, je suis en plein dans un sujet qui me passionne en ce moment. Et votre personnage, il y en a énormément dans ce livre. Et nous n'avons pas ici mission de raconter l'histoire, ni de détailler tous les personnages. Mais moi, justement, j'en retiens quatre des personnages parce que les ficelles s'entrelacent. Alors, je ne vais pas parler de Tacite, et pourtant Tacite apparaît au début de votre livre.
D'ailleurs, ça me dit plaisir, je me suis fait pour casser l'image du bonhomme. Oui.
Ouais, justement, alors il n'est pas du tout sympathique, mais on a plaisir à le trouver, parce que justement, on sait qu'il errait dans ce coin-là, on sait que c'est un homme du sud de la Gaule, et c'est tout à fait cohérent de le rencontrer ici. Mais bon, on ne le voit qu'au début, et on n'a d'ailleurs pas envie, comme je l'ai dit, de le voir davantage. Et donc, les personnages, il y a le médecin urbain, le Medicus Urbanus, qui s'appelle Vespanius Nepos, sa fille qui a autant de connaissances que lui et il a la délicatesse toujours de la propulser de sorte qu'elle ne soit pas considérée simplement comme ça, quelqu'un qui va le seconder, mais qu'elle a sa part entière dans la profession. On a un légat impérial, Aulus Bassus Amphio, qui a fait venir le médecin, parce que encore une fois, je ne veux surtout pas trop dire de choses. Le médecin, il vient parce qu'il a échappé au cataclysme de Pompéi. Alors ça aussi, c'est un ressort dramatique et psychologique vraiment bien trouvé, parce que notre Médicus, bah, il est bouleversé, il lui est arrivé des tas de choses atroces, et en même temps, pour nous, ça fait le lien, en effet, avec cette époque qui est celle de Titus, où Pompéi a été enseveli. Donc ce légat a besoin du médecin pour la ville, c'est l'empereur Titus qui le lui a recommandé, et puis il a besoin à titre privé parce que sa femme a un souci de santé. Et alors donc ça fait déjà ces personnages-là. Puis ensuite, et on va voir que tout ça voisine ensemble, un baroudeur, on va dire, un homme, un chef de bande, qui va avoir lui aussi
un truand.
Et tout ça, et ces gens-là ne devraient pas se rencontrer, évidemment, comme toutes les bonnes histoires. Ils se rencontrent et ils vont en même temps contribuer à résoudre cette enquête. Alors, comme je l'ai dit, on ne raconte pas tout, mais en fait, c'est des meurtres à répétition. Et ce sont des vieilles femmes qui sont assassinées et dépossédées, et peut-être plus, mais on ne va pas en dire trop, je l'ai dit tout à l'heure. Ai-je bien campé la situation ?
Oui. Alors, juste pour les lecteurs, quand on s'y lit en disant non, c'est pas possible, ou l'enquête elle n'a pas pu être résolue de cette façon-là, juste pour que vous sachiez, c'est une enquête qui est basée sur deux vraies enquêtes criminelles.
D'accord.
Sauf qu'elles n'ont pas eu lieu en 80 après Jésus-Christ. Elles ont eu lieu en 1980.
D'accord.
Voilà, donc j'ai transposé les enquêtes parce que les méthodes d'enquête dans ces deux-là étaient très similaires à ça. En fait, vous les avez eues puisque c'est la même.
Oui.
C'est les mêmes les résultats, les mêmes chances, les mêmes faits. Voilà, ils sont faits. Donc, c'est en plus d'être historiquement vrai, c'est au niveau enquête policière, ça a réellement existé.
Et alors, ce qui a aussi existé, parce que ça peut paraître curieux, ce projet d'hôpital, puisqu'on va donner à ce médecin des tas de moyens extraordinaires, et notamment, on peut penser que c'est invraisemblable, dans la demeure qu'on lui donne, eh bien, il va pouvoir créer un hôpital. Or, ça a à voir avec les hôpitaux militaires qui existaient.
Oui. Totalement. Alors, comme le dit dans sa postface Pierre Excoffon, rien ne prouve qu'un hôpital ou qu'une clinique ait existé à Fréjus. D'accord ? C'est une de mes inventions. Mais rien ne prouve que ça n'a pas existé.
Voilà.
Non plus.
Voilà. Je trouve que ce que vous venez de dire à l'instant résume parfaitement le mystère d'un roman, le mystère de l'écriture, le mystère de cette énigme. Et je vais devoir vous abandonner parce que nous n'avons plus le temps d'en dire plus, mais je crois que nos auditeurs auront très envie de lire ce roman. Je le recommande.
Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir interviewé aussi aujourd'hui.
Et bonne fête de Noël à tout le monde.
Vous de même. Au revoir.
Au revoir.
Sur Radio Alliance Plus, la musique d'ici, d'ailleurs.